RFI Radio France Internationale, 7h30 à Bangui, 6h30 à Ouagadougou.
RFI Matin.
À la une de votre journal, Vincent Dublanche, cette question: comment fonctionne la machine de désinformation russe en Afrique? Une enquête collective internationale lève un coin du voile.
Enquête du collectif Forbidden Stories avec 10 médias dont RFI. Elle se base sur des documents obtenus grâce à un ancien employé de Wagner en Centrafrique. On en parle dans un instant. Choguel Maïga avait été nommé en juin 2021 après le second coup d'état militaire au Mali. Il n'est désormais plus premier ministre de transition, décret lu hier soir à la télévision d'État, l'ORTM. On va en parler également. Quel chantier prioritaire au Sénégal pour la nouvelle majorité? On va tenter de vous donner les éléments de réponse dans 5 minutes depuis Dakar. On parle aussi de l'arrestation mardi soir d'un jeune entrepreneur en Guinée. Et puis, alors qu'on fête cette année les 50 ans de la découverte de Lucie en Éthiopie, on va aller, notre dossier va nous emmener dans un autre paradis pour les archéologues, la Tunisie.
Des drapeaux russes dans les manifestations à Bangui, Bamako ou Ouagadougou, des pseudo-articles journalistiques en réalité rédigés par des propagandistes aux ordres de Moscou. Radio France Internationale et ses partenaires du collectif Forbidden Stories vous révèlent les coulisses de la machine de désinformation russe.
En Centrafrique en particulier, Andréane, mais le modèle en fait tend à se dupliquer ailleurs, là où Wagner et son réseau est implanté. Et c'est un ancien employé centrafricain de Wagner qui témoigne. Ephrem Yali a travaillé pendant près de 3 ans pour la communication du groupe Wagner à Bangui. Ça a d'ailleurs failli lui coûter la vie. Il est aujourd'hui réfugié en France après avoir quitté son pays dans des conditions rocambolesques avec le soutien de la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique. La genèse de cette grande enquête avec François Mazet.
C'est en travaillant sur les réseaux mondiaux de désinformation que l'équipe de Forbidden Stories entre en contact avec Ephrem Yalike en août 2022. Il est encore au service de la communication de la galaxie Wagner à Bangui, mais menacé de mort par ses patrons quelques mois plus tôt, il cherche à sortir d'un système dont il réalise la brutalité. Ephrem Yalike confie 4 gigas de documents, de nombreux articles signés de sa main ou placés dans des médias amis et remplis de fausses informations, des photos, des audios, des échanges sur Telegram avec son patron Mikhail Prudnikov et ses divers interprètes. Mais il faudra encore 1 an et demi à Ephrem Yalike pour quitter Bangui en secret, les poches vides et gagner la République démocratique du Congo, puis 4 mois pour arriver en France où il vit en exil. Une odyssée avec le soutien de la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique. Ephrem Yalike raconte aujourd'hui les fausses informations, les bavures maquillées des mercenaires russes, les manifestations montées de toutes pièces. Il nous aide à dresser le panorama des opérations de Wagner en Centrafrique et d'un système aujourd'hui reproduit ailleurs, en particulier au Sahel, autour de l'agence African Initiative et des maisons russes.
Et cette plongée dans la machine de désinformation russe en Centrafrique est une enquête à retrouver à partir de ce matin donc, et jusqu'à dimanche sur RFI.fr, nos environnements numériques aussi. Ephrem Yalike sera notre invité dans 10 minutes et puis on va y revenir largement ce matin, notamment dans le dossier du prochain journal à 7h, temps universel. Pour l'heure, il est 6h33 en temps universel, même fuseau à Bamako. Choguel Maïga semble avoir obtenu ce qu'il voulait, sa révocation de la primature, décret présidentiel lu hier soir à la télévision d'État, qui met donc un terme aux fonctions du Premier ministre de Transition, qui dissout le gouvernement. Le limogeage semblait inéluctable après les propos virulents, on en a parlé ces derniers jours, que Choguel Maïga a tenu, c'était samedi. Le désormais ex-premier ministre de transition avait notamment reproché aux militaires au pouvoir de ne pas l'impliquer dans les décisions, d'avoir aussi reporté unilatéralement, selon lui, les élections. Aucun détail à ce stade, on ignore qui va lui succéder. En tout cas, ce départ de Choguel Maïga, cette rupture avec les ex-colonels devenus généraux, pourrait servir ses ambitions politiques, même si elle peut aussi, David Bachet, le mener vers les soucis.
Choguel Maïga avait été nommé en juin 2021, après le second coup d'état militaire. La précédente équipe avait tenté d'écarter certains colonels putschistes du gouvernement, ce qui avait provoqué cette rectification de la transition, selon l'euphémisme officiel. Choguel Maïga, qui dénonçait jusqu'alors un régime militaire déguisé, choisit de prendre sa part du pouvoir et accède à la primature. Mais en dépit de certaines déclarations fracassantes, comme le fameux abandon en plein vol qui visait la France à la tribune des Nations Unies, Choguel Maïga n'exerce pas réellement le pouvoir. Ses relations avec les colonels, récemment promus généraux, se dégradent progressivement. En mai, l'un de ses proches collaborateurs avait même dénoncé cette éviction du pouvoir, ce qui lui avait valu d'être emprisonné et condamné pour atteinte au crédit de l'État. Choguel Maïga, limogé, devrait poursuivre sa stratégie et tenter de se repositionner en opposant, dans la perspective d'éventuelles futures élections. Mais il lui sera difficile de convaincre après 3 années et demie au service du régime. Choguel Maïga peut aussi désormais redouter la justice de la transition. Ces derniers jours, les organisations pro-junte l'ont accusé de haute trahison et de déstabilisation. Choguel Maïga pourrait à son tour être visé par des poursuites judiciaires.
Toujours au Mali, en bref, les trois responsables de l'entreprise australienne Resolute Mining, arrêtés début novembre, ont été libérés hier. On l'avait évoqué sur RFI, ses dirigeants ont passé un accord de 160 millions de dollars avec le gouvernement de la transition, désormais démissionné. Resolute Mining effectuera un premier versement de 80 millions de dollars dans un premier temps à Bamako, puis un second, je cite, dans les mois à venir.
Au Sénégal, la proclamation officielle des résultats des législatives aura lieu demain au plus tard.
Et dans l'attente du nombre définitif de sièges obtenus, on sait déjà, on en parle depuis lundi, que le PASTEF emporte une large majorité dans la future Assemblée nationale. C'est ce que montrent les résultats des commissions départementales de recensement des votes. La formation du président Bassirou Diomaye Faye et du premier ministre Ousmane Sonko sera au-delà des 99 sièges nécessaires pour adopter des réformes constitutionnelles. Il faut une majorité des 3/5. Dans ce contexte, quels sont donc les chantiers prioritaires de la nouvelle équipe ? Léa Lisa Westerhoff.
L'urgence, c'est d'abord l'adoption d'une loi sur le budget. Passage obligé pour décider quoi financer et comment. Ce débat avait été bloqué en juin dernier par l'ancienne majorité. Priorité numéro 1, désormais, d'ici fin janvier au plus tard, le Sénégal doit être doté de cette feuille de route pour donner aux différents ministères les moyens de travailler et de commencer à mettre en œuvre les promesses contenues dans son plan de développement économique Sénégal 2050. Le tout dans un contexte budgétaire très serré et des attentes fortes du Fonds monétaire international. Les nouvelles autorités se savent par ailleurs très attendues sur la promesse de reddition des comptes et notamment de la création d'une haute cour de justice. Seule institution habilitée à poursuivre un ancien chef de l'État, il faut une majorité qualifiée, donc 99 voix minimum pour l'adopter. Le Premier ministre Ousmane Sonko a promis de s'y atteler très vite dans la nouvelle Assemblée. Idem pour la loi d'amnistie, ce texte qui exempte de poursuite toutes les personnes impliqués dans les manifestations et leur répression entre février 2021 et 2024. Adopté dans les tout derniers jours au pouvoir de Macky Sall, Ousmane Sonko a promis de l'abroger. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
En Guinée, après Fony Kemenge et Mamadou Biloba, les deux militants de la société civile dont on est d'ailleurs toujours sans nouvelles, après Sadou Nimaga, ancien secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie, c'est un jeune entrepreneur qui a été kidnappé mardi. C'était en début de soirée dans le quartier de Koloma en banlieue de Conakry. Alassane Diallo a été enlevé par des hommes en cagoule, armés. Visiblement, il l'attendait non loin de son domicile. Au cours de l'opération, un jeune a perdu la vie. RFI Conakry Mouktarba.
Cette opération de rapt a été perpétrée par des professionnels en civil portant des armes de guerre, selon des témoins qui n'ont rien pu faire pour porter secours à l'opérateur économique.
Celui qui a essayé a été assassiné par les ravisseurs.
Ibrahima Diallo, membre de la famille, est très proche de Alassane Diallo.
Il venait de la mosquée, un véhicule l'attendait sur place avec des hommes cagoulés, ils l'ont pris. Les femmes qui étaient autour ont crié au voleur, ce qui a alerté les motos, taxis qui étaient dans les parages. Quand ils ont pris le véhicule en fuite, ils ont ouvert le feu sur les enfants. Il y a eu un mort.
Ibrahima demande à l'État guinéen d'aider à retrouver son cousin.
C'est l'État qui a les moyens de toutes les recherches. Ils ont les possibilités de trouver qui il veut. Donc vraiment, nous demandons l'aide à l'État guinéen, aux autorités à tous les niveaux, de nous aider à retrouver nos cousins.
Dans les locaux de la famille Diallo, c'est le désespoir et la douleur qui se lisent sur tous les visages. Kadiatou est la nièce de Alassane.
Tout le monde est stressé. Il y a une douleur qu'on ne peut pas décrire. Tout ce qu'on peut dire, c'est de nous venir au secours. L'autorité surtout, on ne sait pas quoi faire. Nous demandons à tout un chacun de vraiment nous aider.
Les forces de sécurité ont été déployées depuis hier près de la résidence Diallo officiellement pour sécuriser les lieux et aider à remonter le moral de la famille. Mokhtarba Conakry, RFI.
Appel sur l'actualité, toujours en Guinée ce matin. Que pensez-vous de l'héritage de Sékou Touré? On en débat, on en discute. L'émission a été enregistrée à Conakry. Le débat sera à suivre en tout cas dès 8h10. Heure locale.
En Algérie, une plainte contre Kamel Daoud et sa femme psychiatre a été officiellement acceptée par le procureur de la République.
La plaignante, c'est une jeune femme qui s'appelle Saada Arban. Elle a perdu sa voix, rescapée d'un massacre qui, dans les années 90, a tué toute sa famille. Elle accuse la femme de l'auteur et l'auteur lui-même d'avoir, je cite, violé le secret de son dossier médical, d'avoir violé son intimité aussi sans son consentement. Concrètement, cette femme affirme que Kamel Daoud s'est basé sur sa propre histoire pour le roman Houri, qui vient de remporter le prix Goncourt, le plus prestigieux des prix littéraires en France. La plaignante, se reconnaît dans le personnage de l'héroïne Aube, jusque dans certains détails très précis. Écoutez l'avocate de la plaignante Saada Arban, donc l'avocate qui s'appelle Maître Fatima Ben Brahm.
J'ai les documents qui prouvent au monde entier que Aïcha Dahdour, psychiatre, suivait ma cliente depuis 2015. Que Aïcha Dahdour est la femme de Kamel Daoud. Que les rapports médicaux dont je dispose, et certains rapports viennent de médecins français. Tous ces documents ont déjà été présentés au tribunal. Parce que si les preuves n'existaient pas, l'action aurait été irrecevable.
Que cherchez-vous en saisissant la justice?
Que justice soit faite, pas plus. Que les droits de ma cliente ne resteront jamais bafoués par quiconque.
Il y a des propos recueillis par Ouda Ibrahim.
Notre dossier dans cette édition en Tunisie, l'un des paradis des archéologues.
Avec plus de 3000 ans d'histoire, différentes civilisations qui se sont implantées. Le pays est un trésor qui affleure à la surface de la terre, même s'il faut souvent un peu gratter avant. Des fouilles archéologiques sont ainsi en cours dans plusieurs sites en Tunisie. Il y a notamment des coopérations entre la Tunisie et la France. Notre correspondante Lilia Blaise est allée sur l'un de ces sites à Douga, c'est au nord-ouest de la Tunisie. Douga, c'était la première capitale numide. Elle est devenue ville romaine, byzantine, ottomane. Les vestiges de toute une cité antique y sont encore présents à 571 mètres d'altitude. Reportage.
Entre les enfants qui jouent dans le théâtre en plein air et les oliviers plantés depuis des siècles entre les pierres, un groupe d'archéologues fait l'inventaire des trouvailles des dernières fouilles sur le site de Douga, l'une des villes numides et romaines la mieux conservée en Afrique du Nord et classée par l'UNESCO. Aïssa Mabidi, conseiller du patrimoine, range des objets métalliques trouvés sur le site.
Nous avons pratiquement donc fouillé le 1/10, même moi, du site, mais toujours il y a des choses à découvrir à Douga. Mais maintenant, je suis en train donc de faire l'inventaire des objets métalliques découverts lors des fouilles anciennes dans la nécropole d'Olminique.
Chloé Damel, doctorante en archéologie romaine, est venue pour finir sa thèse. Elle s'intéresse à des sculptures déjà exhumées, mais peu étudiées.
La plupart des sculptures qui sont conservées ici ont été trouvées en fait il y a plus d'un siècle. Alors on trouve de tout, on a malheureusement que de rares portraits des empereurs. Sinon on a énormément de statues, de représentations de divinités ou de personnages mythologiques qui ornaient différentes salles, différents espaces, surtout les thermes, les maisons, les sanctuaires.
Près de 600 sculptures ont été trouvées sur le site, dont une trentaine sont exposées au musée du Bardo. En attendant la création d'un musée à Douga pour mieux valoriser les nouvelles découvertes. Lilia Blaise, Douga, RFI.
Et ce site de Douga, ses monuments cultuels, notamment la nécropole, mais également le temple romain donc de Saturne. Véronique Brouquier le fouille depuis 2017, elle est archéologue française. Elle nous parle des récentes trouvailles faites sur ce site de Douga en Tunisie. Donc.
Alors par exemple, la Basina, c'est un monument punico-numide, sans doute de la fin du 4e siècle et jusqu'au 1er siècle avant notre ère. Et là, on a des amas osseux, donc des inhumations, mais les squelettes ont été rangés, les ossements sont rangés le long des parois des chambres. Et donc là, c'est tout à fait nouveau pour Douga. Et il y a beaucoup de zones encore à fouiller, à découvrir.
À propos recueilli donc par Lilia Blaise, c'était notre dossier du jour. Il a été retrouvé sur RFI.fr.
Et c'était le journal de Vincent Dublange. Merci Vincent.